Et sur Canalem, on aime l'été. Bonjour à vous toutes et vous tous. Retour de ce long congé que vous avez eu beau et bon, je l'espère. C'est Clotilde Saye qui vous parle et je ne serai pas toute seule si maintenant vous êtes des habitués de M l'été, ce que j'espère sur nos ondes de midi à une heure. Tous les jours, du lundi au vendredi, eh bien, vous savez que j'ai toujours beaucoup d'invités autour de moi. Alors, aujourd'hui, je l'espère, nous aurons Richard Turgeon, directeur général d'Un Vélo, Une Ville, qui nous parlera de balade en triporteur. Gratuit, histoire de vous permettre de vous changer les idées si vous êtes à la maison ou que vous manquez un petit peu d'activité, que vous ne savez pas quoi faire. Eh bien, ça, c'est une très joyeuse alternative. Je vais aussi avoir Benoît Rassette, lui-même en personne, mais c'est en tant que responsable des communications chez Execo que l'animateur d'Accès Libre sera dans notre studio un petit peu plus tard à l'émission. Également, Marilène Robillard, qui nous parlera de l'assistante voyage avec vous partout. Et puis, il y aura aussi une chronique, ce sera une première pour elle, de Claudia Nigrelli. Claudia Nigrelli est non-voyante et elle va nous parler de dépassement de soi un petit peu pour essayer de ne pas se laisser aller, pour se faire du bien quand on est non-voyant, pour rencontrer du monde, quand on est en situation de handicap visuel. Et on commence cette émission, comme tous les jours, par des nouvelles. Sur le site de radiocanada.ca, on a trouvé cette nouvelle. Trouver un logement, c'est une chose, oui, mais trouver un logement adapté lorsqu'on est en fauteuil roulant, ça, c'en est une autre. Au Québec, près de 15% des personnes ayant une incapacité liée à la motricité ont des besoins qui ne sont pas comblés dans leur logis. C'est un texte d'Alexandre Duval. Sandra Langlois a longtemps fait partie de cette statistique. Atteinte du spina bifida, Sandra se déplace en fauteuil roulant depuis qu'elle est enfant. Longtemps, elle a vécu dans un appartement qui n'était pas adapté. En plus de lui compliquer la vie, son logis dilapidait ses revenus. Inapte au travail, Sandra subsiste grâce à l'aide sociale. « À un moment donné, ce n'est pas une vie », relate-t-elle. « Je ne connais personne qui, rendu au cinquième jour du mois, n'a plus d'argent. » Lorsqu'elle en a eu assez, elle a entrepris des démarches pour changer d'endroit. Un supplément de loyer lui a été accordé de telle sorte qu'elle ne paierait dorénavant pas plus de 25% de ses revenus pour se loger. C'est le gouvernement québécois qui assumerait le reste de la facture. Alors, elle a cherché. J'allais dans un restaurant, je prenais le journal, dit-elle, et je cherchais. Est-ce qu'il y a un ascenseur? Est-ce qu'il y a des marches? Je me butais plus souvent qu'autrement à « désolé, le logement n'est pas accessible » ou « désolé, le logement n'est pas assez grand pour un fauteuil roulant », se souvient-elle. Ce n'est pas pour rien si ça a pris 3 ans. C'est grâce à l'aide de l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec, l'IRDPQ, qu'elle a finalement trouvé son nouveau toit dans une coopérative, un 3,5 situé au rez-de-chaussée, bien adapté et près de tous les services. Bon an, mal an, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, CDPDJ pour l'acronyme, ouvre une quinzaine de dossiers pour de la discrimination dans l'accès au logement. À la base de ces plaintes, on retrouve les personnes handicapées physiques ou encore les moyens pour pallier à ces handicaps, soit les fauteuils roulants ou les chiens d'assistance. C'est vraiment la pointe de l'iceberg, précise Joanne Magloire, conseillère à la CDPDJ. Le cas de Valérie Lessard illustre bien comment il est possible de ne pas correspondre aux critères qui permettent d'obtenir de l'aide pour se loger. À 24 ans, elle étudie à temps plein, à la maîtrise, en orthophonie à l'Université Laval. Atteinte de paralysie cérébrale, elle a tenté de se trouver une chambre dans les résidences universitaires, mais en vain. Il n'y a que 5 chambres sur 2300 qui sont adaptées pour les personnes en fauteuil roulant. L'université reçoit entre 5 à 10 demandes par année pour ces chambres, mais 10 suffirent à la demande. 50 chambres ont une salle de bain intégrée et sont offertes en priorité aux personnes avec d'autres handicaps. 110 personnes en fauteuil roulant étaient inscrites à l'Université Laval en 2016-2017. « Dans l'action.com, on peut lire ce sujet, un organisme qui accueille des personnes handicapées, qui lance un cri du cœur. Un de plus, me direz-vous. Chaque année, le service de sécurité incendie effectue une inspection de routine à la maison Clémentine, laquelle est catégorisée comme résidence supervisée. Étant donné le type de clientèle qu'elle accueille, elle doit répondre à des critères de sécurité bien précis pour rester en activité et pour recevoir toutes les accréditations de la régie du bâtiment. Pour 2017, d'importants travaux sont nécessaires à l'établissement, constatent les pompiers et un architecte venu corroborer leurs recommandations. Les normes à respecter seraient sujettes à des changements fréquents, année après année, explique la directrice des lieux, Maryse Desjarlais. On a déjà eu de petites mises aux normes à faire dans le passé, mais d'aussi importantes, c'est la première fois. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes un organisme sans but lucratif et que tous les revenus que nous faisons compensent directement pour nos dépenses. Nous n'avions pas de surplus prévu pour ça, indique-t-elle. D'ici mars 2018, plusieurs rénovations obligatoires seront effectuées afin de limiter la propagation du feu et faciliter l'évacuation des personnes présentant des limitations en cas d'incendie. Il nous manque environ 100 000 $. On espère aller chercher cet argent en sollicitant la communauté. Tous les dons sont les bienvenus, que ce soit de la part de la population ou des entreprises. Elle insiste sur le fait que ces travaux sont obligatoires pour la sécurité des résidents et du personnel de son établissement. Soulignons que la Maison Clémentine offre des services de gardiennage sur une base quotidienne, mais aussi du répit avec des séjours pouvant s'échelonner jusqu'à un mois. Elle peut accueillir jusqu'à 9 personnes handicapées à la fois. Et puis, je voudrais préciser aussi, avant de terminer sur ce papier, que nous avons pris contact avec la directrice de la Maison Clémentine et que nous espérons du coup pouvoir lui donner un petit coup de main. Et puis, pour finir sur ces nouvelles, avec une note heureuse, une jeune amputée qui n'a peur de rien, écrit Stéphanie Girard dans lapresse.ca. Elle s'appelle Adèle. Elle est née avec une malformation congénitale qui faisait en sorte qu'un os lui manquait sous le genou. Elle a ainsi dû être amputée afin de pouvoir marcher. Elle dit qu'elle a toujours vécu avec sa différence. Or, vers le primaire, j'ai vécu un petit peu d'intimidation, mais j'avais des amis qui m'aidaient beaucoup, soutient la jeune fille, qui entamera à l'automne sa quatrième année de secondaire. Elle affirme du fait même que depuis, elle n'a jamais souffert de taquinerie. Et tous les deux ans, l'Association des amputés de guerre organise le séminaire Les Vainqueurs afin de permettre aux jeunes et à leurs parents de se réunir et d'échanger sur leur situation. Ateliers et présentations de prothèses sont au programme. Cette année, l'événement se tiendra du 7 au 9 juillet à Laval sous le thème, donc ça commence le 7, c'est vendredi prochain, sous le thème C'est ce qui reste qui compte. Et notre amie Adèle y participe. Elle y participe d'ailleurs depuis qu'elle a environ 5 ans. Et cette année, elle sera même conseillère junior. Être conseillère junior, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est un exemple pour les plus petits, pour les aider à surmonter des obstacles et à se dégêner, comme Adèle a réussi à le faire. J'ai toujours voulu être conseillère car j'ai vu ce qu'il faisait pour moi et ça m'a vraiment aidée, explique-t-elle. Nous aurons l'occasion cette semaine de revenir sur cet événement qui se tiendra, je vous le rappelle, à Laval. Moi, je pensais que vous étiez parti en vacances, Benoît, et qu'on vous reverrait plus.
Ben, quand vous m'invitez, j'ai envie de sortir de mes vacances et de retrouver M et le soleil.
M l'été, hein?
Ben voilà, M l'été, hein? J'ai failli le dire au complet.
Benoît Racette, bonjour. Mais là, Benoît, on va oublier le côté animation.
Si vous voulez bien, hein, oui.
Qui vous réclame forcément de rester neutre en toutes circonstances. Mais...
Assez peu souvent chez Accès Libre, je dois avouer par exemple.
Oui, c'est vrai que c'est Accès Libre quand même. Mais là, donc, je vais vous demander, c'est au bonhomme qui est chez Execo, à qui j'ai demandé de venir et de nous parler de quelques sujets chauds, peut-être de l'heure, à commencer par peut-être les terrasses, parce que qui dit l'été dit terrasse, mais terrasse accessible pour tout le monde.
Ben voilà, c'est pas exactement le cas. En fait, j'aimerais attirer votre attention sur une action concertée de dénonciation que mène le RAPLIC, Défi Montréal, l'ACEPS. Pour vous le dire, le LACEPS, c'est les étudiants au postsecondaire, et Execo, dont je suis, contre l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec.
Oui.
Donc, c'est une institution assez importante, et en début de cette année, l'ITHQ a décidé de faire un appel d'offres pour faire construire une terrasse inaccessible. Donc, pour le savoir, c'est une terrasse rue Bigot, à peu près à l'angle Saint-Denis. Donc, il y a deux grands arguments qui nous font refuser cette décision. D'abord, très important, c'est le droit de tous et toutes qui est bafoué dans une décision comme celle-là. Et par nécessité, vous le savez, notre société vieillissante, donc on aura tous davantage de limitations fonctionnelles. Alors, il faut prévoir le coût.
Exactement.
Plus encore, la Ville de Montréal a adopté en 2011 une politique en accessibilité universelle. Et cette politique lie la ville et ses mandataires afin de déployer une approche d'inclusion où l'accessibilité universelle permet à toute personne, quelles que soient ses capacités, l'utilisation identique ou similaire, autonome et simultanée des services offerts à l'ensemble de la population.
On est loin. On est loin de, du résultat que ce règlement semblait vouloir imposer.
Ben, en fait, ce n'est pas un règlement. La politique, enfin, c'est ça, moins c'est fort.
Comment on appelle ça?
En fait, il y a le règlement et en dessous, il y a la politique. Ça, c'est la politique en accessibilité universelle. Mais c'est sûr qu'on entend là la Charte des droits et libertés aussi, qui nous dit que nul ne peut, par discrimination, que ce soit pour le moyen de pallier au handicap ou le handicap lui-même, d'empêcher autrui d'avoir accès aux moyens de transport au lieu public, tels les établissements commerciaux, hôtels et restaurants.
Surtout quand c'est nouveau, parce que bon, à la limite, on peut comprendre que certains vieux édifices, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile de mettre en place quelque chose. Mais là, ils l'ont construite, puis de vous à moi, il y avait de la place.
Il y avait de la place, on a même pris des photos, il y avait des moyens de moyenner, comme dirait l'autre, et plus encore, comme un certain premier ministre l'a déjà dit, on est en 2017.
Oui, c'est vrai, mais c'est vrai. Alors, bon, maintenant, qu'est-ce qui va se passer?
Je peux vous parler des prochaines étapes, mais juste revenir sur une petite chose. Si les gens ne sont pas encore convaincus, les attitudes discriminatoires, c'est vraiment un des grands problèmes. La Commission des droits de la personne le rappelle. Et il ne faut pas oublier que les THQ est un leader de l'industrie hôtelière. Donc, des professionnels y sont formés, des gens d'affaires soutiennent sa fondation, de futurs restaurateurs qui vont ouvrir des commerces dans tout le Québec fréquentent les THQ. Donc, faire un choix comme celui-là, c'est envoyer un très mauvais message. Ce qu'il faut faire maintenant, chers amis...
Les étapes.
On les a sommés, bien sûr, de corriger rapidement la situation. Oui. Mais si ça vous tente, chers amis, l'arrondissement du plateau Mont-Royal tient sa prochaine séance du conseil à l'ITHQ le 4 juillet prochain, donc cette semaine. Alors, nous, on y sera. Je vous invite à l'être. Vous pouvez vous inscrire pour la période de questions entre 18h et 18h55. Ça commence à 19h. Prévoyez vos TA pour 20h30 à peu près. On pourra dire que ça suffit aujourd'hui. Les personnes en situation de handicap sont égaux aux autres et peuvent jouir des mêmes terrasses.
Vous serez là, vous?
Ben oui.
Ben oui, évidemment. Ouais. Heureusement qu'on en a des comme ça. On en connaît quelques autres comme vous, mais ils sont pour lesquels...
Ben, je suis content que vous m'invitiez. En tout cas, j'aime être comme ça.
Mais oui, exactement. Vous aviez un autre sujet pour nous.
Oui, un autre petit sujet. Brièvement, vous avez envie d'être sur une terrasse. Oui. Vous aimez un commerce, mais il est inaccessible. Oui. Que vous soyez en situation de handicap ou ambulant qui avait des amis en situation de handicap, dites-le donc à votre commerçant qu'il existe un programme pour aider la mise en accessibilité de son commerce. Il est très méconnu, pourtant il a été promulgué, en fait il a été créé au début de cette année. Il s'agit du programme d'aide à l'accessibilité des commerces, le PAC, ça c'est son petit nom. Donc les gens ont juste à aller vers le service de soutien aux entreprises pour en faire la demande. Est-ce que vous avez envie de savoir en quoi ça consiste comme programme?
Allez-y. Moi je vous laisse aller, l'animateur que vous êtes, il sait très bien.
Il prend le micro, qu'est-ce que vous voulez?
Il prend le micro, puis il a raison.
Mais c'est surtout prendre le micro pour dire que c'est un programme qui va permettre, si on le réclame, si on l'utilise bien, de soutenir 40 projets par année jusqu'en 2021. Et donc, on peut avoir une subvention pour 10 000 $ égale à 75 % des coûts des travaux admissibles, que ce soit pour remplacer la porte donnant accès au bâtiment, installer des rampes, plateformes, ou même remplacer les toilettes pour qu'elles deviennent accessibles. Donc, tous ces travaux sont admissibles au PAC et il faut, quand on en fait la demande, les exécuter les 12 mois après.
Ça veut dire, mon ami Benoît, que lorsqu'un commerçant, par exemple, nous sert comme argument, vous ne vous rendez pas compte, ça coûte bien trop cher, etc. Mais mon ami, mais vous êtes sûrement admissible au PAC, qu'on peut lui dire.
Exactement, c'est ça qu'on doit répondre, vous êtes admissible à ce programme. Et plus que ça encore, il y en existe d'autres, des programmes de subvention au commerce, vous pouvez les jumeler. Vous pouvez faire appel au parc, puis faire appel à un autre programme qui soutient le design. Comme ça, vous pouvez voir jusqu'à 10 000 $ 20 000 $ de subventions de la part de la ville et surtout ne plus exclure les personnes en situation de handicap dans votre commerce.
Parce qu'on est en 2017, Benoît Racette, d'ailleurs ça rime avec, puisque nous sommes en 2017.
Voilà, voilà, je suis content de rimer avec vous aujourd'hui, Clotilde.
Merci, merci beaucoup d'être venu en studio en plus. Alors, mais là, profitez bien aussi de vos vacances.
Ah, je fais ce que je peux pour ça.
Hein? Allez, allez, profitez des terrasses.
Je fréquenterai que les terrasses accessibles, je vous le dis d'avance.
Oui, mais j'en connais quelques-unes, moi.
Ah, bon.
Oui, on s'en parle.
On s'en parle.
D'accord, on ira prendre une petite bière.
Eh oui.
Ouais, c'était pas terrible encore, hein, la météo en fin de semaine. Oh là 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 là. Ça fait que c'est... Moi, je trouve ça triste hein, quand c'est gris comme ça. Tu sais, tu te couches, c'est gris. Tu te lèves, c'est gris. On est en été, bazar. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, on revient au boulot le lundi. Puis oh, surprise! Il y avait un sujet sur lequel on voulait vraiment revenir. Puis on voulait parler à celui qui est vraiment la bonne personne pour nous en parler. C'est le projet Un vélo, une ville, d'ailleurs, qui n'est plus un projet, qui existe maintenant. Je reçois Richard Turgeon, qui en est son directeur général. Bonjour,
oui.
Monsieur Turgeon.
Bonjour.
Merci beaucoup donc d'avoir répondu à notre invitation. Un vélo, une ville, c'est un service de balade en triporteur et c'est gratuit. C'est pour briser l'isolement des aînés, c'est bien ça?
C'est bien ça, oui.
Et aider les étudiants qui appuient sur les pédales à persévérer.
C'est ça, dans leur démarche scolaire.
Dans leur démarche scolaire. Qui a eu l'idée de ça, M. Turgeon? Est-ce que c'est vous?
Non, en fait, l'idée est venue en 2008, d'un jeune décrocheur, en fait, qui avait élaboré cette idée-là. Sauf qu'ils n'avaient pas pu la rendre à bon port, en fait, par manque
de financement.
De financement, par manque de moyens, puis de connaissances aussi. Alors, c'est M. Bernard Landré et moi-même qui avons repris, en fait, cette idée-là à l'intérieur d'un vélo, une ville. Donc, on a fondé cette OSBL-là. M. Landré est toujours le président du conseil d'administration d'organisation. Et à partir de là, on a établi, en fait, le service dans différentes municipalités à travers le Québec et dans différents arrondissements ici à Montréal. Un succès fantastique depuis 4 ans. On est rendu à 32 triporteurs maintenant.
C'est vrai.
On a commencé avec 7, on est rendu à 32 triporteurs 4 ans après.
Alors, bon, alors qui pédale? Des jeunes?
Oui, en fait, on a une équipe terrain qui s'affaire à recruter, en fait, les jeunes pour cet emploi d'été-là. Donc, à partir du mois d'avril-mai, on envoie nos offres d'emploi dans les différentes écoles, dans les commissions scolaires et tout, pour offrir, en fait, cet emploi-là. On a des CV à tour de bras, comme on dit,
oui, hein?
Parce que les jeunes sont très intéressés, parce que c'est un bel emploi d'été, en
ben
fait.
Oui, ben oui.
Et à partir de là, on interview chacun des jeunes et on essaie de choisir ceux qui vont bénéficier le plus, en fait, de cet emploi d'été-là. Mm-hmm. Parce que aussi à la fin de l'exercice, à la fin de leur période de travail, on leur donne une bourse d'études aussi pour faciliter leur retour à l'école. On sait que ça coûte très, très cher de retourner à l'école maintenant. Mm-hmm. Et donc, cette bourse d'études-là leur permet en plus là, de faciliter leur retour à l'école.
Oh, mon Dieu! Et puis en plus, ça leur permet de rencontrer du monde, c'est ça qui est... Parce que forcément, ils doivent sympathiser avec, avec les gens qu'ils baladent. Alors, qui sont-ils, ces gens qu'ils baladent dans leur triporteur?
C'est les aînés. Hein. Chacune des municipalités sélectionne 3 résidences pour aînés qui sont desservies par le triporteur. Alors, durant tout l'été, il s'établit un superbe contact intergénérationnel, dans le fond.
Mais oui.
Où... La grande valeur, en fait, que les gens retirent de ce projet-là, c'est ce contact intergénérationnel.
Mais oui,
beaucoup de jeunes ont des préjugés souvent sur les aînés et aussi les aînés, des fois, sur les jeunes. Et par le fait qu'il y a cette relation-là qui s'établit, c'est motivant et c'est intéressant pour les deux parties, en fait.
Ça fonctionne comment, M. Turgeon? On fait comment? Il faut réserver
en fait,
un triporteur et une balade?
On a une ligne de réservation provinciale, si on veut, qui est 1-844-VÉLO-ÉTÉ.
Facile
à retenir. Et à partir de là, on a des répartiteurs qui prennent en note chacune des réservations. Sur notre site web aussi, on peut réserver directement en ligne. Et dans chacune des résidences, on établit un cahier de réservation aussi.
Ah oui?
Et le répartiteur, lui, fait le tour. En fait, on demande 48 heures d'avance pour les réservations pour avoir le temps de s'organiser
bien
dans
sûr,
chacune des
routes. Bien sûr.
Et c'est assez efficace.
Mais oui, parce que du coup, je m'aperçois que c'est vraiment une grosse organisation quand même.
Moi, je peux dire que en fait, durant l'été, qui est en fait notre grosse
La
période
grosse
d'activité,
saison, oui.
On a 65 employés, donc c'est beaucoup. C'est une grosse PME.
Mais oui, en effet. Alors, est-ce qu'on peut choisir sa balade? Est-ce qu'on peut dire, moi, je voudrais aller au Vieux-Port,
on a 2 types de balades. On a des circuits déjà préétablis, qui sont des balades plutôt récréo-touristiques, mais ça peut être aussi des balades utilitaires, aller renouveler nos prescriptions ou aller faire notre épicerie ou aller à la bibliothèque. Donc, réellement, on donne la flexibilité à l'aîné de soit de se promener par plaisance ou par utilité, en fait.
Et c'est un service absolument gratuit.
C'est gratuit. La façon que l'économique fonctionne là-dedans, c'est que les villes achètent un forfait pour l'été. Et après ça, on a des commanditaires qui, comme le groupe Maurice, par exemple, comme l'ECN, comme le Mouvement des Jardins, commanditent une partie du vélo. Et des donateurs aussi, comme la Caisse de dépôt et placement du Québec. On a des bons partenaires qui nous permettent, en fait, de donner ce service-là à coût quand même très raisonnable pour les municipalités.
Est-ce que c'est juste une seule personne qui peut monter dans le triporteur?
Non, le triporteur, on peut embarquer jusqu'à 2 personnes.
OK, d'accord. Okay.
C'est ça.
Et alors, évidemment, vous savez qu'ici, le cas des personnes âgées, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. On travaille aussi beaucoup pour les personnes handicapées. Est-ce qu'à un moment donné, on pourrait envisager que des personnes handicapées puissent profiter de ce service-là?
En fait, on a déjà des personnes à mobilité réduite, mais étant donné que nos jeunes conducteurs ne sont pas habilités okay. à desservir une clientèle, mettons,
spécialisée.
Qui, ouais. Ça dépend spéciaux, du degré, en fait. À mobilité réduite, oui. Mais lourdement handicapé, on ne pourrait pas okay. parce que d'accord. par manque de formation, en fait, du jeune, on ne peut pas
le. Mais vous le faites déjà.
Ben oui, c'est ça. Oui, on le fait déjà.
Alors maintenant, je sais que de l'autre côté des ondes, ils nous disent oui, mais on les trouve où? On les trouve où? Alors. Où peut-on trouver les triporteurs? À Montréal, bien sûr.
À Montréal,
sûr.
Oui. On est dans l'arrondissement Saint-Laurent. On est dans Plateau, dans Hansic. On est dans Sud-Ouest. On a deux dans Sud-Ouest. On est dans Ville-Marie. En fait, on est sur le côté de Longueuil aussi. En province, on est à Saint-Lin-Laurentide. On est à Joliette, à Gatineau, à Ottawa. On est à Saint-Lambert sur le côté de la Rive-Sud, oui. à Saint-Constant, à Saint-Rémy. Donc on
vous savez ça par cœur, hein?
Ah, oui.
Bravo. Sherbrooke aussi, Trois-Rivières.
Oui, oui, on est à Sherbrooke, on est à Trois-Rivières aussi. En fait, notre entrepôt, notre centre de service à la clientèle est à Trois-Rivières, effectivement.
Alors, et même en Ontario, hein? Il y a...
Oui, en Ontario, on est à Ottawa là, pour l'instant.
Dites-moi, il faut faire quoi pour devenir conducteur?
En fait, on a besoin juste d'être étudiant du secondaire ou du cégep, en fait, mm-hmm. et d'aimer le grand air, l'exercice, et aussi désirer réellement établir ce contact-là avec les aînés, qui est très, très valorisant.
Mais écoutez, M. Turgeon, encore une fois, je trouve ça vraiment formidable comme expérience. Je vous rappelle, le nom, ça s'appelle un vélo, une ville. Et voulez-vous nous redonner, s'il vous plaît, un numéro de téléphone?
Oui, le numéro pour la ligne de réservation générale, en fait, c'est 1-844-VÉLO-ETE.
1-844-VÉLO-ETE.
Oui.
Vélo-été. Vélo-été. Vraiment facile. Et il ouais. y a un site, hein, j'imagine, on peut aller
oui,
sur le site.
Oui, il y a un site web, en fait, qui est unvélo-uneville.org et vous avez toutes les informations.
Toutes les
vous
informations.
Pouvez même réserver en ligne à partir de notre site web.
Unvélo-uneville.org. Monsieur Turgeon, je vous rappelle que vous êtes directeur général d'Un Vélo, Une Ville. Merci beaucoup d'être venu. Puis bravo, vraiment. Puis j'espère que ça va encore grossir beaucoup, beaucoup, beaucoup et qu'on pourra impliquer, du coup, encore plus de jeunes et ouais. surtout pouvoir sortir... des personnes âgées qui sont, ouais. ma foi, si seules,
absolument.
Souvent.
Hein? Ben, merci beaucoup de votre invitation.
Mais ça nous fait plaisir, M. Turgeon. Prenez soin de vous.
Merci.
Au revoir. Petite pause qui m'a permis de faire connaissance avec deux personnes que j'accueille maintenant. J'accueille d'abord Marie-Laine Robillard. Bonjour Marie-Laine.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Mais je vous en prie, avancez-vous un petit peu pour qu'on vous entende bien. Voilà. Et puis juste après, mais elle est déjà en studio, je vais m'entretenir avec Claudia Nigrelli. Bonjour Claudia.
Ben bonjour, merci moi aussi pour l'invitation.
Mais ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Claudia, je ne sais pas si vous connaissez ça. L'assistant voyage ou l'assistante voyage, on vous a invité pour que vous nous en parliez, Marie-Laine. C'est vous qui avez lancé ça, hein?
Oui.
C'est votre propre service d'assistance voyage.
Oui, exactement.
Qu'est-ce que c'est?
Assistant voyage, c'est un service d'assistance personnelle en voyage qui est destiné spécialement aux personnes à mobilité réduite,
okay.
ou à toute personne qui ont besoin d'une aide physique ou de logistique.
Mm-hmm.
Donc, on parle d'un accompagnement en individuel ou en petit groupe qui est dédié à une personne qui a besoin d'assistance. On pense aux personnes avec une déficience intellectuelle, motrice, mm-hmm. visuelle ou auditive, ou aussi aux personnes plus âgées oui. qui auraient envie là, d'avoir besoin d'aide là, pour gérer la logistique.
Mais quelle bonne idée! Ça veut dire que quand vous dites assistance voyage, c'est depuis quoi? La préparation même du voyage?
Bien, en fait, oui. C'est un service qui est avant, pendant et après le voyage.
Wow!
Oui. Pendant le voyage, là, on s'assure d'avoir une présence et une assistance 24 heures sur 24. Oui. Mais à quoi ça ressemble le avant et
oui,
le après?
C'est ça.
Là? Alors, je peux vous expliquer, étant donné que c'est un service qui est personnalisé,
oui.
dans un premier temps, c'est sûr que c'est bien de rencontrer la personne
oui, bien sûr.
Pour pouvoir évaluer le projet.
Bien sûr.
Si c'est un voyage qui est complexe, une deuxième rencontre va être importante. On a besoin de faire connaissance. Quels sont vos besoins? Quelles sont vos limites? Quels sont vos désirs?
Oui.
Avez-vous déjà eu des expériences de voyage dans le passé? Comment ça s'est passé?
Oui, oui,
etc.
Oui.
Ensuite de ça... Moi, c'est sûr que je ne suis pas une agence de voyage, mais
non.
je collabore avec l'agence de voyage pour pouvoir regarder attentivement c'est quoi l'itinéraire,
oui.
les transports sont organisés de quelle manière. Donc, toutes les activités, on va les passer en revue pour s'assurer que tout va bien se passer avec les gens que je vais accompagner.
Mmh. L'hôtellerie, tout ça, parce qu'évidemment, il faut faire attention à tout ça en fonction des handicaps des personnes qui ne sont pas forcément les mêmes. Parce que ce sont des voyages à plusieurs ou vous êtes...
En fait, ça s'adresse soit à... c'est un service qui est individuel ou très petit groupe.
Ah, d'accord.
Puis on reviendra sur les étapes de l'accompagnement, mais je dois juste ajouter que... Quand est-ce que c'est bien d'être accompagné? Des fois, la
oui.
famille ou les amis n'ont pas toujours la liberté de pouvoir partir en voyage. Il y a un autre aspect aussi, peut-être qu'eux aussi, ils veulent en profiter pleinement. Alors là, moi, mon rôle est de vraiment voir à ce que la logistique se passe bien. Et il y a aussi les personnes qui ont voyagé toute leur vie,
oui.
qui veulent continuer de le faire, qui sentent qu'ils auraient besoin d'une assistance pour
oui.
continuer de le faire en toute sécurité. Oui. Et pour ce qui est des étapes
oui,
de
alors,
l'accompagnement,
oui.
avant de partir, oui, je vais appeler au restaurant, à l'hôtel, les attraits touristiques pour avoir plus d'informations sur
l'accessibilité. Bien sûr.
Oui. Et
bien
puis
sûr.
Aussi en profiter pour voir les heures d'ouverture. Est-ce qu'il y a une porte en particulier qu'il faut prendre?
Oui.
Est-ce qu'il y a des choses que j'ai besoin de savoir et que les personnes accompagnées ont besoin de savoir pour que ça se passe dans l'harmonie?
Dit-elle, dans l'harmonie. Marie-Laine,
oui.
on parle de voyage au Québec, en dehors de nos frontières, de notre province.
Toutes les possibilités sont bonnes.
Dans le monde entier?
Oui, oui, absolument.
Oh,
absolument.
Wow.
Je vous explique. Dans le fond, c'est... moi, mon rôle, c'est de faciliter les séjours à l'extérieur du domicile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être en région, mais ça peut être à l'étranger également, pour des courts ou des longs séjours. Je dirais même des longs séjours avec plusieurs destinations. Et la possibilité d'un tour du monde, ça se peut aussi parce que j'ai cette liberté-là. Donc, il s'agit vraiment de voir c'est quoi le projet.
Mais vous n'auriez pas
déjà.
La liberté d'accompagner la personne pendant tout son tour du monde. J'imagine que vous avez une équipe, vous avez...
je peux toujours chercher des gens qui pourraient nous aider en cours de route. J'ai déjà été chasseur de tête.
Bon.
Mais oui, je suis disponible pour faire ça.
OK, bon.
Donc, ça j'ai pas d'enfant, pas de chien,
okay.
pas de chat, pas de poisson rouge. Fait que oui, le projet, c'est faisable pour moi, même dans un contexte comme ça. Puis des fois, ça peut être pour accompagner au chalet.
Mais oui.
On a besoin de quelqu'un pour l'hiver déneiger, faire la popote.
Avez-vous déjà vécu des belles expériences?
Ah, en fait... Il y a une chose qui est importante, hein? À partir du moment où on cultive la confiance,
oui.
puis qu'on est bien préparé,
oui, oui.
tout se passe bien.
Oui.
Je suis guide accompagnatrice de groupe.
OK.
J'accompagne des Français dans la province
d'Ontario. Oh là! Alors vous êtes prête à tout!
de la nourriture sur le chemin, hein?
Et du vin buvable.
Mais j'accompagne aussi des groupes de retraités, d'accord, des Québécois dans la province de l'Ontario, partout, mm-hmm, au Québec, mm-hmm, jusqu'autour de la Gaspésie, en passant par les baleines, la cabane à sucre, etc.
Alors, vous savez ce que c'est que l'accompagnement, hein?
Oui,
vous
êtes,
parce que c'est pas toujours évident, hein, de répondre aux besoins. Alors, surtout lorsque les besoins sont spécifiques, mm-hmm, comme avec une personne qui vit avec une déficience quelconque. Et... Mm-hmm. Est-ce que vous avez voyagé, vous, Claudia Nigrelli?
Oui.
À qui je m'adresse, et je précise que vous êtes non-voyante.
Oui, je suis non-voyante.
Vous êtes totalement aveugle ou partiellement?
Il me reste encore un peu de vision, mais on peut dire aveugle, oui, cliniquement aveugle.
Cliniquement aveugle.
Oui.
Et vous avez voyagé, Claudia?
Oui, j'adore ça. Justement, je parlais un peu avec Marilène avant d'arriver en ondes, et j'ai dit, ça serait parfait qu'on se parle après, justement.
Ah, il y a un projet dans l'air.
Oui.
Ah, mais voyez-vous.
Avec grand plaisir.
Alors ça, c'est du bonheur. Ça, lorsque Canalem est capable de pouvoir créer comme ça ces rencontres-là, j'imagine que pour offrir un tel service, vous avez vous-même, parce que bon, ok, vous êtes guide et vous savez comment on fait, Marilyn, pour accompagner des gens, mais là, ce sont des personnes, mm-hmm, à besoins spéciaux. Vous avez suivi une formation, mm-hmm, vous avez...
Ben, de différentes façons. Moi, ouais, je suis toujours en formation continue.
Ouais.
C'est sûr que je ne suis pas une infirmière, mais je renouvelle régulièrement mes cartes de secourisme avec la Croix-Rouge. Mm-hmm. Ensuite de ça, j'ai fait quelques ateliers avec Kiroul. Et selon les besoins des gens que j'accompagne, je vais aller me documenter au maximum.
Parfait.
Peut-être même aussi sortir quelques jours avec la personne dans son environnement pour bien saisir les défis.
Oui.
Et
oui,
pour être à l'écoute de comment les choses doivent se passer pour cette, mm-hmm, personne-là.
Mm-hmm.
Ensuite de ça, mes expériences professionnelles m'ont amenée à m'adapter puis à aider les gens à s'adapter. Mmh. J'accompagne des immigrants en recherche d'emploi.
C'est vrai.
Oui, puis qui viennent aussi juste d'arriver ici. Donc, je les accompagne dans le processus, dans le métro également. Et je travaille au service à la clientèle à temps partiel dans une résidence pour aînés.
Mmh. Donc, vous êtes une humaniste, hein, Marilyn, hein, je pense. Hein? Vous aimez l'humain et vous aimez venir en aide, hein, je pense,
en fait,
à l'humain qui vous entoure.
Oui, tellement, tellement.
Oui.
Parce que mes deux passions sont les voyages qui incluent la découverte, puis qui incluent aussi de se connecter au moment présent et d'aider les gens. Alors, c'est magnifique de pouvoir dire, je peux être libre d'apporter cette aide-là à des gens qui ont des rêves à réaliser ou qui ont besoin d'un coup de main d'une façon ou d'une autre.
C'est une très, très bonne idée. Il nous reste une minute. Je voudrais qu'on la prenne, cette minute, pour parler. Bon, brièvement, évidemment, ça coûte quelque chose, fatalement. Est-ce que ça vous dérange de nous parler de coûts ou est-ce que c'est...
C'est sûr que la première chose, en rencontrant le client, je vais évaluer ses besoins.
D'accord.
Je vais évaluer le projet.
D'accord.
C'est à la lumière de ça que je vais pouvoir proposer une offre de service.
D'accord.
Mais j'ai une grande souplesse.
Oui, c'est ça, exactement. Dit-elle avec un grand sourire.
Oh,
vous avez un sourire fantastique et vous avez les yeux aussi bleus que le bleu de Canalem. Et votre chemisier, d'ailleurs. On a l'impression qu'on a peint les murs avec la même couleur que votre chemisier. C'est absolument beau bleu. Dites-moi, Marilyn, pour finir, les gens peuvent aller sur assistant-voyage.ca.
Oui, absolument. Puis je peux même laisser mon numéro de téléphone en onde.
D'accord.
Si on veut me parler
bien
directement.
Sûr. Allez-y.
C'est dans le 514-206-8670. Ça va être avec un grand plaisir que je vais voir les projets des gens, les projets de voyage.
Et je vous rassure, si vous n'avez pas eu le temps de prendre en note ce numéro, eh bien, allez simplement sur assistant-voyage.ca. Vous aurez absolument toutes les informations. C'est une magnifique idée.
Merci.
Marilyn, vraiment, Marilyn Robillard, que cette idée d'assistance voyage comme ça, je vous souhaite le meilleur.
Merci.
Pour l'avenir et je vous souhaite de même pouvoir former du monde et qu'il y ait de plus en plus de gens et que ça devienne vraiment un groupe connu. Hein, ce serait vraiment épatant parce que je trouve l'idée très brillante.
Avec grand plaisir.
Au revoir, Marilyn.
Au revoir.
Salut. Kaboula, bébédi, babédi, boum. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Bébédi, babédi, boum. Zalgadoula, mech, kaboula, bébédi, babédi, boum. C'est la magie où je m'y connais pas. Bébédi, babédi, boum. Salagadoula veut dire la menchika scoupé tout. Mais le truc qui fait boum à tous les coups, c'est bébédi babédi bou. Oh, salagadoula menchika boula, bébédi babédi bou. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Bébédi babédi, bébédi babédi, bébédi babédi bou. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Bébédi babédi, bébédi babédi, bébédi babédi bou. Bébédi babédi, bébédi babédi, bébédi babédi, bébédi babédi, bébédi babédi, bébédi babédi.
Stacy Kent, j'achète n'importe quoi. J'achète absolument tout de cette chanteuse de jazz là qui chante dans je ne sais plus combien de langues et qui est une Canadienne d'ailleurs, hein, de Toronto je pense. Alors Stacy Kent sur les ondes de Canal M et c'est l'émission Aime l'été qui se poursuit avec Clotilde Seille au micro et ses invités. Et là je me tourne vers Claudia Negrelli. Bonjour Claudia.
Bonjour.
Alors Claudia, je voudrais d'abord préciser pour les gens, parce qu'ici on n'est pas à la télévision. Alors Claudia Negrelli donc est non-voyante, elle nous l'a dit tantôt, quasiment, cliniquement, totalement aveugle. Claudia, vous êtes une magnifique jeune femme. Et ce n'est pas par hasard, si je le précise, parce qu'il lancera question pendant cette chronique. Ah, vous êtes d'accord avec moi, Marie-Laine? Jean-Sébastien est complètement sous le charme. Enfin bon, tout le monde est sous le charme quand on vous voit, Claudia. Merci. On tombe, pas en amour, je veux dire, mais entendez-moi bien, ce sont peut-être des mots un peu forts que je ne voudrais surtout pas usurper, mais vous êtes vraiment une très belle jeune fille et... Il en sera question justement de ça. Je voudrais que vous nous parliez d'abord de votre parcours. Est-ce que vous avez toujours été aveugle?
La diagnostic de la maladie, moi j'ai la rétinite pigmentaire.
Okay.
La diagnostic s'est faite à l'âge de 7 ans. Okay. Est-ce que j'ai vu avant? On ne le sait pas. Mais moi je continue à dire que c'est vraiment à l'âge de 7 ans que la maladie...
Okay. Avez-vous des souvenirs?
De voir? Oh oui, absolument.
Ah,
on
oui.
en parlait justement okay. hier soir dans ma famille. Et justement, je pensais à ça aussi ce matin avant de m'en venir. C'est drôle comment que les images, les couleurs, le plus que je perds la vue, on parle de la vue de les yeux, le plus que je me souviens ou les souvenirs me viennent à l'esprit.
C'est vrai.
De quand j'étais jeune.
Ah,
ouais.
Oui.
C'est comme si je voudrais pas perdre ce côté-là.
Par exemple, tantôt, quand je parlais de la couleur bleue, soudain, je me suis dit, bon, c'est complètement idiot de ma part de parler de la couleur bleue, mais vous vous souvenez de la couleur bleue?
Absolument.
Vous vous souvenez de toutes les couleurs?
Oui.
Parce que ça, c'est une question qu'on se pose. Évidemment, toutes les personnes aveugles ou non-voyantes ou partiellement non-voyantes qui nous écoutent vont peut-être trouver ces questions-là un petit peu aberrantes, mais je voudrais les poser au nom des gens qui ne peuvent pas se mettre à la place, parce qu'on ne pourra jamais se mettre à la place d'une personne non-voyante. C'est pas parce qu'on va aller manger dans le noir au restaurant une fois qu'on saura, hein, on s'entend. Alors, vous, donc, depuis l'âge de 7 ans, petit à petit, hein, parce que j'imagine mm-hmm. que c'est arrivé petit à petit, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Et pourtant, vous n'avez pas baissé les bras, c'est le moins qu'on puisse dire.
Ben, c'est drôle que vous dites ne pas baisser les bras, car peut-être on peut en parler un petit peu.
Oui.
Mais c'est mon rêve que j'ai réalisé depuis 2 ans maintenant. Je suis conférencière.
Oui.
Et ma conférence s'intitule « Garder la tête haute et jamais baisser les bras ».
Et qu'est-ce que vous faites pour garder la tête haute, Claudia Nigrelli?
Oh, on s'entoure premièrement avec des bonnes personnes.
Mm-hmm.
On essaie de vraiment garder le positif, le côté positif. C'est pas toujours facile.
Non, c'est ça. Quand vous dites s'entourer de bonnes personnes, je poserais la question à une personne si elle était voyante. Quand j'entends toujours cette phrase-là, je me dis, est-ce que ça veut dire qu'on élimine les gens qui nous sont néfastes?
Par néfaste, vous voulez dire?
Néfaste, c'est-à-dire qui ne sont pas des bonnes personnes pour nous, par des gens qui pourraient nous faire du mal, par des gens qui pourraient... Et je vous dis, je poserai la question à n'importe quel individu.
Oui, si je peux m'exprimer bien, ben, si on enlève tout le côté voir avec ses yeux, mm-hmm. quand on devient ou quand on est né aveugle complètement, donc on voit noir complètement, c'est vraiment notre cœur qui nous guide. Mm-hmm. vers des mm-hmm. choses. Mm-hmm. Et c'est vrai que quand moi, je dis que j'aime pas quelqu'un, ben je les aime pas parce qu'ils ont pas une bonne énergie.
OK.
Donc, entouré par des bonnes personnes, c'est des jeunes ou des plus âgés mm-hmm. qui ont une énergie souriant, positif et tout ça. J'aime pas trop les gens négatifs, car déjà, j'en vis beaucoup, j'en ai beaucoup sur les épaules.
Oui, c'est ça. Donc, en fait, c'est éviter les gens qui vous tirent par le fond, mais plutôt avoir auprès de vous des gens qui vous élèvent, finalement.
Oui, absolument.
Hein? Et là, on en revient sur... la tête haute, sur toujours cette notion d'élévation. Quand je disais que vous êtes une belle jeune femme, vous êtes très élégante.
Ah.
Donc, j'imagine que pour vous, c'est un souci. Hein, quand c'est peut-être une chose que vous avez envie de dire aux personnes, peut-être non-voyantes, qui nous écoutent en ce moment. C'est pas parce qu'on ne se voit plus, hein, on en a parlé un petit peu au téléphone l'autre jour, mm-hmm. qu'on ne peut pas... avoir envie, entre autres, d'être bien habillée. Vous, c'est un souci que vous avez?
Plus qu'un souci, c'est quelque chose que j'aime maintenir. Donc, dans le sens que je m'assure que je suis... j'ai appris à me maquiller tranquillement avec les années, à bien m'habiller. J'ai ma sœur, ma mère qui m'aide beaucoup à choisir mon linge, malgré que j'ai mon style... pareil, ça enlève pas
bien
mon
sûr.
Côté de femme, mais pour avoir les couleurs qui vont bien ensemble, mm-hmm. avoir les, vous savez, un peu de vernis et tout ça, c'est important de garder la beauté, peu importe si nous, on se voit ou non. Moi, mm-hmm. je dis, les autres me voient mm-hmm. et ça joue sur l'estime de soi aussi.
Bien sûr, bien sûr. Et on l'apprécie. Mais est-ce qu'il y a des fois où... Vous savez, genre, moi, le dimanche, parfois, allez, journée pyjama, ben, s'habille en mou, comme tout le monde.
Quand je sors pas, je suis tout le temps en pyjama. Alors, viens pas cogner chez nous. J'ai pas l'air de ça tout le temps.
Ah mais... oui, parce que vous êtes fière, c'est-à-dire que si vous ne vous sentez pas préparée, vous n'aimez pas qu'on vous voit.
Ah, non mais c'est juste être confortable chez moi. J'aime beaucoup ça, être en pyjama jogging.
Vous avez un métier?
Oui.
Qu'est-ce que vous faites?
Je suis massothérapeute, donc depuis 10 ans maintenant.
Oui.
Je pratique la massothérapie, j'adore ça. C'est plus qu'un travail, c'est une passion.
C'est une passion.
Pour moi, oui.
OK. Est-ce que vous massez parfois des personnes non-voyantes?
Oui, ça m'est arrivé déjà aussi au niveau hospitalier, oui. On dit en français. Oui, excuse, oui. J'ai un anglophone aussi.
Non, c'est bien. c'est parfait le français, c'est parfait, c'est bon. Claudia.
Alors oui, pour revenir à ça, je masse un peu monsieur, madame, tout le monde, ainsi que des athlètes. Je ne me suis pas limitée à la clientèle. Je trouve ça dommage quand on se limite à une clientèle parce que parfois, on fait des rencontres bien originales dans la massothérapie. On masse le corps, on fait du bien, ça fait du bien.
Bien sûr.
Mais c'est très bon pour la morale aussi.
Oui, pour le moral, effectivement.
Les gens qui vivent des divorces et tout ça, ça touche beaucoup, ça relaxe.
Et c'est quelque chose que vous recommandez aussi, d'aller se faire masser, peut-être pour, encore une fois, pour des personnes non-voyantes qui nous écoutent, c'est peut-être un des plaisirs qu'ils pourraient découvrir.
Oui, ben ça nous met en contact avec soi-même, veut pas. Et des fois, c'est même pas, on n'est même pas obligé de rester une heure de temps.
Non.
Des fois, aussi trouver juste une petite demi-heure, tu sais, un petit massage de dos. On pense à des mamans avec les bébés. Quand les bébés pleurent, qu'est-ce qu'on fait? La première chose, on essaie de les soulager. Mm-hmm. Alors, des fois, ça prend pas longtemps qu'on se remet dans notre corps et, on respire et on se sent mieux.
Claudia, vous avez un magnifique cœur autour du cou.
Oui, oui, mon petit collet, merci.
Êtes-vous en amour?
Oui, je suis en amour.
Oh!
Dommage pour Jean-Sébastien.
regardez, il est très, très marié, le gars. Ne vous inquiétez pas.
Non, c'est des blagues.
Bien sûr.
Mais oui, je suis en amour. On peut dire copain depuis 3 ans maintenant.
Ah, quand 3 ans?
Quand je dis nouveau, c'est parce que... on vit souvent des affaires ensemble qu'à chaque jour, c'est une nouvelle aventure. Mm-hmm. Donc, pour moi, il est très spécial.
Oui. Il voit?
Il voit.
Il voit, d'accord.
Oui, oui. C'était pas que je voulais quelqu'un voyant ou non-voyant, ça n'a rien à voir. Mais le fait qu'il voit et qu'il, qu'il est mon chauffeur privé et tout
mais
ça.
Mais oui,
ça,
et ça vous aide. Partez en voyage ensemble. Hein, oui. Vous étiez très attentive à ce que disait tantôt Marilène. Hein, d'ailleurs, vous en avez un voyage de prévu?
Bien, en fait, le voyage que j'avais de prévu, moi aussi, j'ai mon entreprise qui s'appelle Arbonne. C'est une compagnie de santé, beauté, mieux-être.
OK.
Et justement, on pensait avec ma sœur qui est souvent proche de moi, on pensait d'aller à Calgary. C'est là où est-ce qu'il va avoir le prochain... comment qu'on appelle
ça? Un salon? Un congrès, d'accord.
Et c'est là où est-ce qu'on pensait aller... en fait, on est déjà inscrit.
Okay.
Mais je me cherchais quelqu'un pour enlever un peu la charge de ma sœur ou des gens qui m'entourent.
J'ai l'impression que vous êtes vraiment très, très bien tombée parce que je pense que vous avez la bonne personne à côté de vous.
Oui, on va s'en parler.
Oui, absolument. Oui. La personne, je rappelle le nom. Fois, pour les gens qui viendraient juste de se joindre à nous, c'est parce que j'ai accueilli à l'émission aussi Marilène Robillard qui a créé Assistant Voyage et c'est exactement ce que vous proposez, hein, de venir en aide à des gens qui voudraient pouvoir peut-être soulager la famille et... Claudia, on va faire un petit résumé.
Oui.
Vous voyagez, vous massez, vous prenez vraiment soin de vous, beaucoup, maquillage, couture, etc. Vous rencontrez aussi beaucoup de gens, vous sortez beaucoup?
Beaucoup.
Est-ce que vous allez danser, par exemple? Allez-vous dans les bars?
Moins, parce que je tolère depuis un certain temps, je tolère moins bien la musique forte.
Ah oui, OK.
Mais quand je parle, je pense qu'on s'est parlé au téléphone aussi, quand on parle de sortir, ça va être beaucoup sortir de ma zone de confort, donc aller dans les réseautages.
Oui.
De faire du bénévolat, de faire des conférences, ça c'est beaucoup avec l'aide... des travailleurs sociaux dans la dernière année et demie. Parce que je suis sûre que je suis pas la même personne qu'avant. Mmh. Et sans vraiment, En fait, c'est ça. Pour revenir, c'est la travailleuse sociale qui m'a aidée beaucoup avec l'INLB, avec l'INCA, que si on veut grandir comme personne, de devenir une meilleure leader pour les autres, ben, faut être leader par soi-même pour commencer. Alors, aller dans les réseautages, j'allais pas dans les réseautages pour des non-voyants, c'est des centres de femmes que justement, j'invite les non-voyants de... On est très bien accueillis. Et aussi à l'INCA, c'est des premières portes à cogner. Vous savez, ça commence par soi-même de faire des changements. Pourtant, il y a quelques années, j'avais tout ça en avant de moi. Mais je ne voyais pas que c'était possible. C'est quand moi, j'ai pris la décision de changer, de sortir, encore une fois, de ma zone de confort. C'est là que j'ai réalisé que je commençais à grandir beaucoup comme personne.
Et que vous souhaitez maintenant pouvoir aider d'autres personnes à en faire autant.
Oh, absolument. Hein? Absolument.
D'où le but de vos conférences. Vous savez ce qu'on va faire? On vous réinvitera. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu plus de ce bénévolat que vous faites et des conférences et tout ça.
Ça va me faire plaisir.
C'est une invitation.
Parfait.
En bonne et due forme. Claudia Nigrelli, que nous recevions à l'émission Aime l'été. Merci beaucoup, Claudia.
Ça me fait vraiment plaisir. À une prochaine.
Voilà, ce sont sur ces jolis mots de Claudia Nigrelli que se referme aujourd'hui l'émission Aime l'été. Merci beaucoup à toute mon équipe, Sylvie Rivard, Louise Vien, Jean-Sébastien Laliberté. C'était Clotilde Say, à demain 11h30.